Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, on vous embarque cette semaine à bord de notre navire pour une croisière graphique, musicale, poétique et photographique. Au sommaire, pour vous inviter à couper vos écrans et faire autre chose de vos vies, une sulfateuse redoutablement efficace, un Tombird en grande forme, des photographes de guerre et de la poésie pour retrouver notre chemin et bien entendu nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec Laurette Sulfate, artiste inclassable qui distille ses images dans la rue au gré de ses déplacements et de l'actualité. On la connaît pour ses Corona Girl, le personnage féminin maniant la seringue comme personne. La rue n'est pas son seul royaume. Elle expose des objets insolites sérigraphiés, des collages foisonnants et fresques géantes. Pirate et subversif, son art manie l'imaginaire décalé et produit des œuvres pleines d'humour et de sensualité. Bonjour Laurette Sulfate.
Bonjour.
Ravie en fait de vous accueillir ici sur ce plateau de la comédie Odéon. Nous enregistrons ici au milieu de vos images. Depuis quelques jours déjà, vous avez envahi l'espace bar, enfin l'espace où nous partageons quelques collations dans ce super théâtre. Je le disais, Laurette, vous proposez essentiellement des personnages féminins. Alors, pourquoi les femmes ?
Je n'ai pas analysé pourquoi les femmes. En fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours dessiné des femmes.
D'accord.
Voilà. Et pour moi, c'est un support à plein de variations possibles, tout autant spirituelles, tout autant humoristiques,
elles vous inspirent,
tout autant combattantes. Voilà. Mais c'est plutôt en général des femmes qui sont bien ancrées.
Ouais, effectivement. Et ce sont des femmes puissantes.
C'est plutôt des femmes puissantes qui, devant l'adversité, transforment chaque fois les choses. C'est pour ça qu'il y a aussi des fois beaucoup de fleurs ou beaucoup de choses un petit peu plus trash, comme avec cette burqa, où en fait, malgré la contrainte d'une chose, elles arrivent quand même à exister dans une identité propre ou même se reconstruire aussi une identité.
Ah oui, absolument. Parce qu'effectivement, vous avez des personnages en burqa, par exemple, avec un masque de Dark Vador et un nounours, pratiquement aux couleurs pop, un peu kawaii, c'est-à-dire un peu japonaise, c'est-à-dire que vos images sont comme des collages. Racontez-nous, comment vous travaillez ?
Alors, par exemple, pour reprendre en fait cette image qui est en fait une image qui s'appelle Dark Crystal, moi je suis nietzschéenne, hein, c'est la grande dramaturgie en général. Donc là, par exemple, je me suis partie d'un texte de Nietzsche qui est en fait, quand on regarde l'abîme, l'abîme regarde aussi en nous. De là, de cette phrase-là, je commence à faire plein de croquis, plein de choses comme ça, et je pars un petit peu dans un imaginaire. Donc là, en fait, elle tient le chat Cheshire par la queue, ce qui est le non-sens absolu, parce que déjà, le chat Cheshire est déjà, en fait, c'est le chat d'Alice. Mais en fait, c'est le seul qui a une vraie
Alice au pays
raison,
des merveilles, je le dis pour nos auditeurs.
Oui, Alice au pays des merveilles. Donc, en fait, pour expliquer cette image, donc elle est en Alice au pays des merveilles, elle tient le chat Cheshire, qui, en fait, dans l'histoire, est le seul qui a une vraie raison. C'est le seul qui est raisonnable dans cette histoire-là.
Ouais, c'est vrai.
Et elle prend en fait la figure de Dark Vador sur le haut de l'image.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Et donc ça a un rapport à Nietzsche, donc chacun
bien sûr
chercher.
Alors on voit ces personnages effectivement avec des tchadors, dans des compositions multiples, etc. Mais effectivement, dans la description de cette image, on comprend déjà comment vous vous inspirez. Est-ce que ça part toujours de texte ? Est-ce que ça peut partir d'une poésie, d'une image que vous avez vue qui vous inspire ? Comment tout démarre ?
C'est très variable. Hein. Autant ça peut être d'un texte, ce qui n'est pas forcément le cas. L'actualité, en général, comme ces burqas, les premières burqas sur la série qui s'appelle Mettre les voiles, c'était aussi suite à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo.
Bien sûr.
Où là, j'ai été acheter une burqa et j'ai décidé de partir dans une forme de poésie. anesthésie parce que c'était assez épouvantable. Donc moi, c'était ma manière de digérer les choses.
Bien sûr.
Et donc j'ai fait des vidéos qui s'appellent Métomonia, qu'on peut voir sur mon site internet, qui est une vidéo assez particulière où effectivement c'est des femmes en burqa qui jouent avec des bonbonnes de gaz et ça devient complètement absurde jusqu'au bout.
C'est avec une musique de une chanson de Nina Hagen.
Nina Hagen,
bien
absolument.
Sûr. Bien sûr.
Et de là, en fait, ça devient quelque chose d'absurde. Elle se démultiplie à l'infini et c'est une forme de poésie aussi. Voilà, que j'essaye d'amener une poésie avec derrière effectivement une actualité assez grave pour les burqas. Et pareil pour les femmes qui mangent, en fait ça s'appelle livre ouvert, donc qui mangent des bonbons en lisant des livres importants. Voilà, il faut venir voir.
Exactement, à la Comédie Odéon en ce moment. C'est important de venir voir les images de Laurette Sulfat. Justement, vous avez parlé de musique, vous me tendez une perche magnifique parce qu'effectivement, vous ne faites pas que du graphisme, que des arts plastiques, comme on dit. Vous investissez également le champ de la musique, de la performance. Sur votre site, j'ai trouvé des références à la musique. Vous composez parfois de la musique, vous chantez, ou est-ce que vous utilisez toujours la musique des autres ou des compositions personnelles? C'est variable, là aussi.
Alors, c'est des associations. C'est,
bien sûr.
En fait, c'est des rendez-vous.
Des rencontres.
Et des rencontres. Ouais. Après, moi, en général, j'ai des idées, donc moi je ne suis pas musicienne, en revanche je chante depuis pas mal d'années. Après moi en fait je trouve les airs, les choses comme ça, et après je pars en studio, je rencontre des gens qui aiment aussi cet univers et avec qui on crée vraiment des formats alors assez particuliers, donc pareil il faut aller voir, qui est entre la poésie sous-jacente avec des images aussi un peu choc comme avec l'histoire du Joker, hein, puisque là je travaille beaucoup sur la figure du Joker avec un philosophe qui s'appelle Guillaume Draidemi, où on est en train de faire un ouvrage à deux cœurs, pas à quatre mains, je préfère dire à deux cœurs, où en fait on vient échanger nos deux univers, lui en tant que philosophe nietzschéen aussi, donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien, et moi avec mes images, donc là on est en train de créer aussi
un livre. Voilà, est-ce que ça sera le premier avec vos images ou est-ce que il y a d'autres parutions?
Il y a eu des parutions dans des magazines, Beaux-Arts Magazine,
mais pas
en ouvrage, non, pas un ouvrage poétique en fait.
Parce que vous ne vouliez pas forcément une monographie ou quelque chose comme ça. Vous aviez plutôt envie finalement d'un livre un peu thématique et puissant.
C'est parti pareil, c'est des rencontres d'amitié, hein. Ça se passe le soir en général et là on se dit tiens,
et si on faisait
face à l'adversité ou face à cette quelle transformation on peut amener sur un monde qui est déjà en transformation, qui ne nous convient plus.
Bien sûr.
Et donc l'image des sirènes qui sont là, hein, qui sont échouées en fait sur une terre aride avec une pluie de dollars, c'est aussi le capitalisme. Donc, du coup ça existe aussi en format vidéo. De là, dans les discussions, on a dit tiens, c'est intéressant de faire comme si on était un peu des fées qui se diraient mais comment on peut s'adapter à cet environnement qui n'est plus positif pour nous.
Bien sûr.
Et donc on se dit on va l'enchanter, manière nietzschéenne, dramatique toujours, avec beaucoup de gaieté, hein. Ça c'est important.
Et faire danser les étoiles, comme dirait Nietzsche.
Les choses se font comme ça sous plusieurs formats effectivement, que ça soit vidéo, littéraire, graphique, voilà. Tout s'invente au jour le jour, en fait.
L'exposition s'appelle Dove Idol. Donc, on voit bien les idoles, on est parfaitement d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de références. Des références au cinéma, des références aux arts plastiques. Moi, j'y vois des références à Mucha. J'y vois des références à Emmanuel, le célèbre film. J'y vois plein de références. Évidemment, Cendrillon, on l'a dit tout à l'heure, Dark Vador, hein, avec la saga... Ce qui est très intéressant, c'est vraiment ce foisonnement. Je crois que chaque image peut parler à quelqu'un avec ses références,
et
avec ses codes.
Particulièrement aux enfants.
Oui, effectivement.
Qui eux se posent en fait pas tellement de questions.
C'est vrai.
Ou qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, on peut mélanger aussi les styles.
Ouais.
Les paradoxes sont intéressants.
Oui, tout
dans
à fait.
Chose.
Absolument.
Voilà. Après, moi, c'est parce que peut-être aussi j'ai baigné aussi dans un milieu avec un collectionneur de bandes dessinées depuis que je suis petite.
Ah voilà, la bande dessinée.
Effectivement, on est quand même dans un graphisme qui est un peu plus loin de l'art conceptuel, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, puisque j'ai fait.
C'est un côté pop.
Un côté pop.
Bien sûr.
Mais toujours, il y a des lectures assez différentes sur voilà, sur d'autres points de vue, comme les promesses du paradis où on voit d'un côté en fait des vierges sur une balance et de l'autre en fait un crâne.
Ouais.
Donc on peut se dire
les vanités, la référence aux vanités.
Vanité, puis aussi que le poids de la mort par rapport à, voilà, à toutes les violences sera toujours plus, beaucoup plus concret que l'idée qu'on peut se faire des 1000 vierges qu'on peut retrouver on sait où. Voilà. Alors, donc il y a toujours aussi un petit beaucoup d'humour aussi.
Il y, a le personnage aussi d'Ophélie hein, qu'on retrouve ici, bien sûr. Hein,
je voulais faire mon Ophélie.
Voilà, hein, c'est voilà. Ophélie, un grand tableau, Ophélie, qui est complètement en référence avec les pré-raphaélites anglais, hein, puisque vous avez repris en fait cette célèbre image.
C'est ça. Donc là, en fait, moi, je vais tout ce qui est sur les tableaux existe. Hein, c'est-à-dire que c'est que de la photo.
Ouais.
Donc là, en fait, je me suis beaucoup promenée dans les cimetières en prenant toutes les photos de, on va dire, de fleurs mortuaires qu'on met à la poubelle.
Oui.
Donc là, je viens de les récupérer. Après, je vais acheter des balustrades, je vais faire ma composition. Et là, c'était mon Ophélie, parce que l'Ophélie, j'aime bien ce côté un peu en extase. On ne sait pas si elle jouit ou si elle est en train de mourir.
Si elle meurt, ouais.
Et en même temps, elle donne son corps à la nature. Hein. C'est-à-dire que tout ça n'est jamais vain. Tout se transforme. Et voilà. Donc c'est...
Encore une fois, il faut venir voir Love Idol jusqu'au 9 juin, je crois. L'exposition, c'est à la Comédie Odéon. J'étais très contente de vous recevoir, Laurette Sulfat.
Oui,
et à venir, bien sûr, ce livre. Donc, quand sortira-t-il ?
C'est en construction. Donc, après, on va voir. On a déjà quelques touches avec quelques éditeurs.
Oui, ça, c'est bien.
Voilà. Ouais. Et on va faire une performance aussi le 6 juin, il faut quand même le dire. Parce que j'ai créé des billets à l'effigie du Joker. Hein, donc, il y a 12 billets sur des thèmes poétiques où il y aura une distribution en fait, qui va se faire en début de cortège.
Alors, elle sera où, cette performance ? Le 6 juin.
Si c'est encore d'actualité, normalement le cortège devrait partir sur la Guillotière. Mais pour l'instant, personne ne le sait. Donc
c'est
il y aura une fanfare aussi, la fanfare Fame, qui viendra jouer de la musique de Prince.
Ouais.
Donc, par rapport à
génial.
Gotham City. Enfin, bref, voilà. Donc tout pareil, tout s'articule en fonction de plein de gens avec qui ont tous en fait voilà une
envie,
que ce soit de la musique, une envie, voilà. Et donc là, on va faire une performance.
Départ à la Guillotière.
Et ça sera un départ Jean Massé aux Guillotières.
D'accord.
On est en train de formuler tout ça.
Bon, alors si on veut en savoir plus sur votre site internet.
Oui, voilà, c'est ce qui est.
On
mieux.
Est d'accord, hein.
Voilà.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Ouais.
Je vais le mettre en référence. C'est laurette-sulfat.com. C'est pas compliqué.
Voilà. Hein, qui est en fait un produit qui fait de la mousse, hein, qui est dans tous les shampoings, qui ne lave absolument pas, qui est un peu irritant pour le cuir chevelu. Et je trouvais que c'était...
C'était très bien pour un nom d'artiste.
Absolument.
Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Guillaume, cette semaine, tu es venu accompagné de Tom Bird et vous êtes venu nous parler d'un nouvel album. Quelle bonne nouvelle!
Alors justement, un nouvel album parce que Tom Bird, avant, c'était flou. Et maintenant, c'est un peu plus clair puisque l'album est enfin sorti après 2 EP. Alors pourquoi je dis c'est flou?
J'en ai aucune idée.
Ah bon?
La
photo,
pochette,
la pochette, oui, pardon.
Voilà. Non, mais c'est le début. Oui, bien sûr.
Il faut se chauffer.
Le flou de la pochette.
Le flou de la pochette. Alors peut-être commençons par ça. Pourquoi cette pochette un peu en mouvement? On voit même pas ton visage.
Non.
À moitié, c'est très étrange comme choix.
C'est complètement voulu. C'est pas que la photo a été ratée, que je me suis dit mince, on peut plus revenir en arrière. En fait, l'album s'appelle Le Portrait, c'est pas mon portrait spécifiquement à moi, c'est plus des personnages, réels ou fictifs d'ailleurs, des paysages, des choses dont j'ai envie de parler, qui peut-être me représentent un peu par petites touches, mais je voulais pas que mon visage soit en gros plan parce que ce n'est pas mon portrait à moi et j'ai un peu de pudeur là-dessus aussi, déjà par rapport à l'EP précédent où on me voyait pas vraiment. Le côté portrait, je trouve que c'est selon chaque personne, on n'a pas le même portrait de quelqu'un. Par exemple, vous et moi, on n'aura pas le même portrait d'une même personne. Et j'aime bien le côté flou, à savoir que ça représente un peu c'est une image qui m'est propre et c'est pas forcément la tienne. Donc je voulais pas quelque chose de précis, de détaillé, c'est très subjectif un portrait selon moi. Donc c'est ce que je voulais dégager un peu avec cette photo.
Alors c'est amusant parce que quand tu dis voilà, c'est pas ton portrait mais c'est le portrait d'autres gens, moi au contraire je trouve que ça dessine totalement ton portrait.
Un peu.
Parce que je trouve que l'album parle beaucoup d'amour, de plein de lieux, on écoutera tout à l'heure Saint-Malo, et puis d'inhibition aussi, je trouve, d'oser faire les choses. Et dans Saint-Malo justement il y a un mot que tu n'arrives pas à prononcer.
Oui.
Donc voilà, donc j'ai l'impression l'impression que ça parle, enfin le sujet de l'album, il y a un fil rouge quoi.
Oui, il y a, c'est des personnages que je connais ou pas d'ailleurs. L'Inconnu par exemple est une chanson qui a été écrite totalement en imagination, mais c'est des personnalités qui m'intéressent, dont j'ai envie de parler, qui ont m'ont permis aussi d'en être là aujourd'hui. Il y a par exemple la grand-mère, le portrait de la grand-mère, c'est la première qui m'a appris la musique, mais je voulais pas parler juste d'elle, je voulais un peu parler de toutes les grand-mères qui sont dans cet état d'esprit là de faut qu'on profite un peu de la vie, etc. Donc j'essaye de je pense par pudeur de parler de ces gens qui me sont proches, mais en essayant de les rendre un peu plus générales aussi.
Alors grand-mère, c'est le titre qui ouvre l'album. J'aimerais bien que tu nous parles du dernier, Daniel, parce que je le trouve assez étonnant et très poignant en fait. Mais tout est poignant, mais celui-là particulièrement.
Alors il y avait une volonté, Daniel, c'est l'entité de la personne qui est partie trop tôt, clairement, et qui aurait pu changer beaucoup de choses. On se dit, il y a des gens, on se dit, si seulement cette personne était là, les choses seraient différentes. On sait, à tout point de vue. Et je voulais ouvrir justement avec cette entité de grand-mère qui m'a appris la musique, et je voulais clôturer avec la personne qui m'a longtemps dit de continuer de faire de la musique et d'en faire et d'y croire, etc. Donc c'est les deux personnes les plus importantes dans mon cheminement d'artiste, et je voulais assumer le côté on va finir par ça, même si c'est peut-être un message qui est un peu plus mélancolique, mais pour moi il l'est pas en fait. C'est pas on va finir par le deuil ou, non on va finir par justement une personnalité qui est lumineuse et qui a toute sa lumière encore ici, en tout cas moi dans mon aventure.
Alors tu dis que c'est les deux personnes qui t'ont conduit à la musique, mais je pense qu'il y en a quand même une troisième, puisqu'il y a un duo sur cet album.
Oui.
Ton nom avec Leïla Wissoud, qu'on salue parce qu'elle joue ce soir à Parole et Musique.
Tout à fait.
Voilà, alors tu peux nous raconter en quelques mots ta rencontre avec Leïla et puis pourquoi elle figure sur l'album.
La boucle est bouclée, comme j'aime le dire. En fait, c'est Leïla qui m'a donné confiance dans ce projet-là, parce qu'avant j'écrivais en anglais. J'écrivais un peu en français, mais je ne le mettais pas à disposition publique. Je le gardais un peu pour moi parce que j'étais pas encore très satisfait de la façon d'écrire des mots. Et Leïla, c'est une des premières personnes à qui j'ai fait écouter ce que je voulais faire, et qui m'a dit mais il y a des idées, travaille-le encore. Et qui finalement, c'est en la voyant elle faire sur scène, moi ça m'a, les premiers concerts où je l'ai vue, j'ai pris une claque vraiment, parce que je me suis dit mais on peut en fait monter sur scène et assumer des textes en français. Quand bien même ça plaît ou pas, tant que c'est fait avec le cœur et avec le côté j'assume complètement, en fait on emporte les gens. Et je me suis dit ok, ça montre qu'on peut le faire, je vais essayer aussi. Donc c'est complètement elle qui m'a donné un peu la légitimité de ça. Ouais.
Alors peut-être quand même un petit mot sur l'équipe qui t'entoure, parce que il y a une petite amitié pour Saint-Étienne, puisque tu travailles avec le Cri du Charbon, et puis je crois que la prise de son a été faite par Nicolas Taric aussi, et puis il y a pas mal de musiciens lyonnais sur le disque. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est goupillé?
Oui, alors il y a tellement de gens dans l'équipe, c'est récemment encore, je me rendais compte que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autant de personnes autour de moi, parce que c'est en plus pour beaucoup des gens que je connais, de mon entourage, et c'est des gens en plus très talentueux, donc c'est quand même une chance. La première personne, c'est je pense Nicolas Taric justement, parce que j'ai bu un café avec lui et je lui parlais un peu de tout ça, que je voulais faire l'album, l'enregistrer, mais j'arrivais pas encore à prendre le courage de me dire allez, je vais en studio et c'est parti, parce que j'avais encore besoin de tourner les chansons, les compos, j'avais peur finalement de les rendre publics aussi. Et il m'a dit viens dans le studio, on essaye. Et en fait c'est là où je me suis dit c'est parti, on va essayer. Et puis en fait c'est devenu un jour, c'est devenu une semaine, deux semaines de studio. Et c'est un peu lui qui a été à l'origine de ça. Après il y a eu des musiciens lyonnais, où il y a eu un batteur, Rémi Capriélan. Il y a eu Yves-Marie Bello à la trompette, il y a eu Clément Sandrin à la basse, il y a eu Clément nom de scène Léman d'ailleurs, qui a été le directeur artistique, un peu réalisateur de l'album aussi. Je l'ai appelé, ça fait 2 ans que je l'appelle et que je lui dis allez, ce soir on continue un petit peu, on retouche à ce morceau là il a été vraiment vraiment chouette. Donc il y a beaucoup beaucoup de monde, Marc Chaperon aussi qui a fait des arrangements, j'ai été entouré par peut-être 20-25 personnes.
Donc on peut dire que l'album est sorti depuis le 12 mai, mais que tu as quand même quelques dates très prochainement, puisque d'abord il y a une date au château du Ronzier,
le 26 mai,
et puis il y a quand même une date à Lyon importante, puisque c'est la release partie de l'album.
Oui.
Et donc
j'ai hâte, parce que c'est un peu le concert à la maison. En même temps c'est celui qui fait toujours très peur, Je vais inviter des gens qui ont été présents sur l'album. Donc il y aura Leïla, on va faire le duo. Il y aura Yves-Marie Bello à la trompette aussi. Et voilà, il y aura plusieurs personnes qui m'ont accompagné sur CD. Il y aura Ronnie en première partie, qui est incroyable. C'est de la folk un peu planante et c'est très très beau.
Donc c'est le 9 juin.
C'est le 9 juin, effectivement.
Et c'est à la salle
Barbara,
la MJC Montchat.
Oui, tout à fait.
Et puis, quand même, je voulais quand même en parler aussi parce que je pense que ça doit être quelque chose. Tu fais, alors pas la première partie tout à fait, mais bon, tu chantes juste avant Alain Souchon. Donc c'est je pense qu'il y a quand même une filiation.
Alors, même pour être tout à fait honnête avec Clément, quand on a commencé un peu à ranger le disque, je lui ai dit, moi j'ai une référence, alors qu'on n'a peut-être pas suivi, on l'a dans un coin de la tête, c'est le dernier album d'Alain Souchon, justement, que je trouve, enfin c'est fou, après autant d'années de carrière, arriver à faire un album qui est moderne, mais qui reste dans la patte chanson, enfin je trouve ça fou en fait d'avoir réussi à faire ça, il n'est pas ringard du tout, pour moi c'est un de mes albums préférés de ces dernières années, et je me suis dit, bah, je veux bien un truc comme ça, un peu moderne, mais quand même garder le côté chanson, je ne sais pas si on l'a vraiment fait, mais en tout cas, ça, oui, il n'est pas très loin, donc c'est assez chouette de jouer juste avant lui sur la scène, en fait c'est à l'entrepôt, il y a une terrasse devant, donc il y aura, c'est un apéro-concert, et puis après on rentre tous dans la salle et on assiste.
Et c'est où l'entrepôt au festival?
C'est au Haillan.
Du Haillan?
Ouais, c'est vers Bordeaux.
Ah oui, d'accord, ok, ça me parlait pas du tout, mais bon, c'est normal, Bordeaux c'est un peu loin. D'accord, donc ça c'est le 10 juin.
Le 10
donc,
juin.
Le 9 à Lyon et le 10 à Bordeaux.
Et le 8 à Genève.
Ah, le 8 à Genève, ouais. En plus, bon bah formidable. Ouais. On va t'écouter avec Saint-Malo.
Avec plaisir.
Toi qui ne pose que des cœurs sur la vitre que tu aimes embuer, et moi qui les efface de peur de les sentir battre sans l'avoir demandé. Je sais les mots que j'ignore et que je ne dis pas d'ordinaire, mais je connais les décors qui peuvent déjà nous plaire. La chaleur de Séville, les plages de Saint-Malo, les gondoles à Venise, les pieds au bord de l'eau, et à l'aube de la nuit, ta voix et alors je t'attends. Qui ce jour de février ne demande rien qu'un peu de poésie, quand moi la tête encore en janvier, je traîne un peu à te parler d'aujourd'hui. Je sais les mots que j'ignore et que je n'ose pas dire d'ordinaire, mais si tu lisais mon corps, tu les verrais en chair. La chaleur de Séville, les plages de Saint-Malo, les gondoles à Venise, les pieds au bord de l'eau, et à l'aube de la nuit, ta voix et alors je tu regrettes mon vocabulaire. Je le vois, je le vois. J'aimerais tant voir le monde à ta manière, mais je ne sais pas, je ne sais pas. La chaleur de Paris, retour à Saint-Malo, la beauté de nos nuits, quand me viendront ces mots que j'oserais te dire sans le moindre effort. Je La chaleur de Séville, les plages de Saint-Malo, les gondoles à Venise, les pieds au bord de l'eau, à l'aurore de ma vie, t'avoue et sans gêne que je...
Donc on vient d'entendre Saint-Malo de Tom Bird. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Pourquoi cette ville? Mais il y a d'autres villes dans la chanson en fait. Ou il y a d'autres lieux.
C'est ça. Il y a déjà des gens qui m'ont écrit en me disant mais dans le clip c'est pas du tout Saint-Malo qui est montré. Et je me suis dit mais non mais c'est pas du tout une chanson sur la ville de Saint-Malo. En fait c'est l'idée de cette chanson, c'est de dire J'ai un peu du mal avec les termes « je t'aime », etc., les termes d'amour. Je préfère avoir des gestes, des vacances. Et en fait, je préfère qu'on parte en vacances dans les endroits les plus romantiques possibles, tant que ça m'évite de devoir dire « je t'aime » pour montrer l'amour que j'ai. Donc il y a Saint-Malo, parce que je trouve que c'est une ville qui m'inspire un peu la balade en tandem, je sais pas, sur le vélo à deux. Mmh. Et puis voilà, il y a Venise, il y a Séville, il y a des villes comme ça. Mais oui, c'est pas du tout sur Saint-Malo, c'est plus sur le côté destination romantique. Voilà, on va faire tout ça et je vais pas te dire les mots que tu attends.
Bon, et ben écoute, on te remercie beaucoup et puis
merci à vous.
Et puis venez tous à Lyon, donc à la salle Barbara le
9 juin.
Le 9 juin. Merci Tom Byrne.
Merci.
Kael, cette semaine, tu nous parles d'une exposition intitulée sobrement « La guerre Ukraine 2022 ». Ce sont des photographies de Maxime Donduc et d'Alexandre Gladielov. Je pense que tu t'es un petit peu entraîné. Cette exposition est à voir en ce moment à la galerie Au Bleu du Ciel. On t'écoute.
Le centre de photographie, donc galerie Le Bleu du Ciel, expose non sans émotion deux grands représentants multiprimés de la photographie documentaire ukrainienne, à savoir Maxime Donduc et Alexandre Gladielov. Le commissaire d'exposition, Oleg Sosnov, parle très bien français. Avant la guerre, il avait la responsabilité des projets culturels à l'Institut français d'Ukraine à Kiev et était également fixeur pour des journalistes. Parmi ces journalistes, on peut citer Florence Aubenas, qui a d'ailleurs dédié à Oleg Sosnov son dernier essai « Ici et ailleurs » paru début février 2023 aux éditions de l'Olivier. La guerre, point. Ukraine 2022, point. J'insiste sur l'importance de l'intitulé de l'exposition et de sa ponctuation. La guerre, point. Indique la guerre dans sa dimension au sens large, cette guerre nous impacte tous. Puis on lit le reste du titre, Ukraine 2022, point. Selon Oleg Sosnov, regarder notre propre souffrance pourrait être une définition donnée à l'exposition. La guerre a fait des Ukrainiens et des Ukrainiennes des participants directs, tout à la fois héros, victimes et chroniqueurs. Avec cette exposition qui rend hommage au courage, à la détermination et à la résistance du peuple ukrainien, Oleg Sosnov parle même de séances de psychothérapie dans un pays en guerre. Les deux photographes exposés couvrent la guerre en Ukraine depuis 2014. Chacun a un style singulier bien reconnaissable. Pour Maxime Donduc, âgé de 40 ans, beaucoup de couleurs. Tandis qu'Alexandre Gladielov, 66 ans, opte exclusivement pour le noir et blanc. Leur travail ne s'inscrit pas dans la veine du photojournalisme, pas de « war effect » dans leur démarche. Ce choix éditorial correspond pleinement à celui du Bleu du Ciel, à savoir la photographie documentaire avec choix esthétique. Maxime Donduc et Alexandre Gladielov, empreints d'une forte démarche autorale, voient leur subjectivité servie par une scénographie qui confirme leur positionnement esthétique. Le parcours s'ouvre sur le pont brisé et la métaphore du pont culturel, de la liaison, de la connexion. Maxime Donduc a photographié les corps inertes de civils morts pendant l'évacuation d'Irpin. Irpin, fameuse ville située à une vingtaine de kilomètres de Kiev, dernier verrou avant la capitale. On se souvient tous, début mars 2022, des images d'exode des Ukrainiens marchant en file indienne sur des planches faisant office de passerelles. Le pont d'Irpin venait d'être détruit par l'armée ukrainienne par prévention pour ralentir la progression russe vers Kiev. Le Bleu du Ciel insiste. L'exposition est bien commissariée et la scénographie manifeste. Elle s'affiche même. Exemple dans la dernière salle où deux grands fonds de 3 mètres sur 5, dressés tels des tapisseries, offrent deux vastes images d'arrière-plan. Les photos sont sciemment accrochées par rapport à certains détails des grands fonds afin de faire formellement dialoguer plusieurs fragments et détails. Avec cette scénographie, Oleg Sosnov instaure de nombreuses conversations plastiques. Des arbres rappellent des poteaux électriques ou La queue d'un missile devient le tronc d'un arbre. De multiples lignes se poursuivent et se confondent, avec un souci très réfléchi de la composition. L'exposition montre l'impact de la guerre sur le quotidien des Ukrainiens, mais aussi sur l'espace urbain avec les frappes aériennes des infrastructures et des quartiers résidentiels, et sur la nature, notamment dans la forêt de Tchernigiv. En parallèle de la guerre Ukraine 2022 est programmée à la mairie du 4e jusqu'au 31 mai, l'exposition La guerre en Ukraine, point de vue des photographes ukrainiens et ukrainiennes, montée en partenariat avec le festival Odessa Photo Days, le réseau Trace, l'association Lyon Ukraine, des ONG et la ville de Lyon. Elle propose une sélection de 34 photos de 8 photographes. Au bleu du ciel, la guerre.ukraine 2022 est programmée jusqu'au 23 septembre 2023. Plus d'informations sur lebleuduciel.net.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Thomas, cette semaine, tu es venu avec le madrilène Ramon Gomez de la Serna. Il est né en 1888 et mourra en 1963. Enfin, avec un extrait d'un de ses textes, Gregorias, aux éditions 100 pages. On t'écoute et tu nous en parles après.
Le crocodile est une valise qui voyage pour son propre compte. La chenille du dentifrice. L'orateur est un instrument à vent qui joue en solo. Les chiens recherchent avec avidité le maître qu'ils ont eu dans une vie antérieure. La lune a besoin des chats, mais elle ne parvient pas à les attirer jusqu'à elle. Les grenouilles sont toujours en pleine épreuve de natation. Le chameau a toujours l'air rongé au mythe. Ah, et celui-là, je l'adore. La lune est une banque de métaphores en faillite. Je répète, la lune est une banque de métaphores en faillite. C'est dans les musées de sculpture que les papas entendent leurs enfants faire les remarques les plus insolites. « Papa, ma feuille, à moi, elle n'a pas encore poussé. » Le crocodile est une chaussure qui bâille de la semelle. « Apportez-moi une bouteille d'eau avec des bulles. »« Ah oui, dit le garçon, je vois, cette eau qui a un goût de fourmi dans les jambes. » La nuit est un navire dont la lune est le hublot. La bijouterie tout entière a rougi. Un communiste l'a regardé. Les appareils photographiques voudraient être des accordéons et les accordéons des appareils photographiques. La lune et le sable s'aiment avec frénésie.
C'est très très beau cet extrait. Et d'abord, pourquoi cet extrait? Et surtout, quelle belle édition, hein, vraiment. Alors, parle-nous en fait de l'auteur d'abord et ensuite du choix de ce texte.
Alors, Ramon Gomez de la Serna, c'est un auteur que moi j'ai découvert il y a des années au travers d'un texte presque inavouable. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on a été envoûté par un texte qui s'appelle Saint, S-E-I-N-S, Senos en espagnol? Bon, je fais une confidence, je ne sais pas si elle est strictement poétique. Hein. Donc, au-delà de Senos, parce qu'il est quand même pas mal connu pour ce recueil-là,
oui.
Ramon Gomez de la Serna est connu pour avoir inventé un genre littéraire, une forme littéraire qui s'appelle l'egregarias, justement, qui est une forme très singulière. En fait, c'est un assemblage de phrases d'énoncés.
Comme tu viens de nous les lire.
Voilà, sans lien objectif entre elles. Alors, le mot espagnol gregaria, c'est lui-même qui l'a choisi. Il s'est beaucoup questionné avant de choisir un mot pour qualifier cette forme. Il est tombé sur Gregaria, c'est un mot qui en espagnol, parce qu'il n'a pas vraiment de correspondance française, peut s'appliquer par exemple au brouhaha des enfants qui sortent d'une école. Mmh. Et là on entend des phrases, elles sont un peu reliées entre elles parce qu'on peut imaginer que tous les enfants disent un peu les mêmes choses à leurs parents en sortant de l'école. Et puis en même temps chaque enfant est différent. Bref, voilà, c'est un assemblage de phrases qui disent ou pas des choses proches ou reliées ou pas.
Voilà. Mmh. Alors là, on voit dans le choix que tu as fait, c'est vraiment le règne animal et le règne de la nature, enfin en général, parce qu'il y a la lune aussi qui est...
Il y a des choses de différents niveaux, hein. Il y a des images qui sont quasiment des images enfantines, hein, la chenille du dentifrice par exemple, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus élaborées, il y a comme un petit temps d'intégration avant de toucher la métaphore, notamment celle par exemple que j'ai répétée sur la lune. Qui est comme une banque des métaphores en faillite. Le temps de toucher la réalité, il y a comme une temporalité différente sur chaque phrase et pourtant elle reste reliée. Voilà, je trouve que c'est une forme très belle. Et comme on est dans un monde de juxtaposition, hein, sur Facebook, on a des réalités extrêmement différentes qui se jouent dans un même fil. Finalement, ça ressemble un peu à ça. Et puis en même temps, c'est très choisi comme assemblage. Un peu aléatoire, un peu choisi. Mm-hmm. Et puis on peut toujours spéculer sur le lien entre chaque énoncé.
Les éditions.
Alors je souhaite le monde d'avoir un jour entre ses mains un livre des éditions 100 pages. Donc c'est une maison d'édition qui a quelques dizaines d'années, j'ai pas en tête la date de publication, mais c'est toujours des objets très aboutis, très simples en même temps. C'est un magnifique
travail.
Chaque livre est différent. Est différent, vraiment travaillé dans le détail. Là, même la tranche du livre,
c'est un damier.
Un damier qui est imprimé.
Ouais, absolument. La couverture est splendide aussi. Enfin, vraiment, ces éditions sont magnifiques. Et Gregerias est toujours accompagné. Non, il se lit pas tout à fait comme un livre ordinaire.
Non, c'est vrai.
Hein, il se lit comme un carnet, enfin comment on pourrait dire, en paysage.
En format paysage.
Et chaque texte est accompagné d'un petit dessin, en fait, sur la page d'en face. Donc c'est vraiment, vraiment très très beau, c'est un objet splendide. J'en dirai évidemment quelque chose sur, je mettrai le lien bien sûr, sur ces éditions 100 pages, pour qu'on découvre ça bien sûr. Merci beaucoup Thomas.
Merci Gaëlle.
On termine avec les Gédéon, nos coups de cœur du moment. Gaëlle, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine est l'exposition Nos corps encodés dans le lieu d'art contemporain Comète à Lyon 3e. Fondée en mars 2019 par la très dynamique Émilie Dornano, Comète assure la diffusion et la promotion de la jeune création contemporaine. Nos corps encodés expose les créations des sœurs jumelles Blanche et Louise Lafarge sous le double commissariat d'Émilie Dornano et de Marie Bassano. Blanche et Louise Lafarge, nées en 1994, mènent une réflexion sur la représentation des corps dans les espaces numériques. Exemple de thématique, les corps numériques absents versus le cyberharcèlement bien tangible, ou autre exemple, les avatars qui permettent l'anonymat et la non-identification de genre. Ainsi, l'espace virtuel devient le lieu de tous les possibles entre réalité et fiction. Virtuel réel, dont la curatrice et autrice américaine Legacy Russell mentionnait déjà la poreuse frontière dans son livre publié en 2020, Glitch Feminism Manifesto, glitch étant en anglais un problème. La sphère numérique utilise ce terme pour désigner un résultat inattendu ou un dysfonctionnement. Blanche et Louise Lafarge travaillent différentes techniques, sculpture, scan 3D, sérigraphie, vidéo, son et hologramme. Plusieurs sculptures noires au rendu huileux provenant de la résine époxy sont suspendues au plafond comme une invitation à une réalité mouvante, perméable et ouverte. Une autre œuvre, intitulée « Entre deux », présente des visages en plâtre et en résine. Il faut saisir cette sculpture sous tous les angles pour percevoir les distorsions visuelles qu'engendre la feuille lenticulaire disposée devant l'œuvre. L'illusion est convaincante. On louvoie entre divulgation et dissimulation. Le geste artistique de Blanche et Louise Lafarge conjugue le double mouvement de masquer et de démasquer, comme une sollicitation à dévoiler autant d'identités potentielles où chaque individu pourrait s'exprimer librement sans crainte d'être jugé ou discriminé. À noter, Nos corps encodés est une double exposition. La programmation à Comète jusqu'au 13 juillet 2023, doublée d'un accrochage en partenariat avec la Galerie Tator, qui commencera le 8 juin et se terminera le 26 juillet. Plus d'informations sur comète.fr. Comète, c'est K-O-2-M-E-T.
Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, Guillaume, cette semaine, avec quoi es-tu venu ?
Alors moi je suis venu avec un disque qui vient de sortir, donc Automatic City, qui est un groupe lyonnais. Ouais. Un troisième ou quatrième disque, non, il y avait un EP, deux albums, et donc c'est le troisième album, je crois, qui s'appelle Humdrum. C'est de la psyché soul chamanique, avec évidemment la voix d'Éric Dupéret, qui est pour moi la voix la plus sensuelle, la plus sexy du PMF, du paysage musical français. Elle est parfaite pour les siestes crapuleuses. Moi, je serais une dame. Alors non, c'est très sexy ce que je viens de dire, mais en tout cas, je craque totalement pour la voix d'Éric. Alors, Éric Dupéret, il jouait dans un groupe qui s'appelle Mister Day, dont je désespère un nouvel album. Je lui lance un message, il le connaît ce message. Ça fait des années que j'espère un autre album, mais Automatic City, c'est vraiment un album extraordinaire. Alors, c'est quoi Automatic City ? C'est, comme je le disais, de la soul psyché. Pourquoi ? Parce que on reprend pas mal d'artistes que vous connaissez, par exemple Chuck Berry, évidemment. Alors c'est pas vous allez me dire Chuck Berry, c'est pas de la soul, non. C'est plutôt rock. Mais Curtis Mayfield et puis Lonnie Smith.
Donc ce sont des reprises.
Ce sont des reprises, pas seulement, puisqu'il y a quand même trois titres originaux, donc d'Eric et puis de Manu Mercier qui est guitariste en fait. Si je disais guitariste, c'est très très réducteur. Parce que sur cet album, il utilise des instruments de dingo, le choral sitar, le belzouki guitare 12 cordes. Alors qu'est-ce que c'est que le belzouki? C'est une guitare faite par la marque Dan Electro, dans les années 60. Et donc ça se rapproche du bouzouki, mais électrique. Et donc ça a beaucoup été utilisé par un guitariste qui s'appelle Vinnie Bell qui a popularisé cette espèce de sitar électrique et qui a travaillé d'ailleurs avec Jean-Jacques Perret, qui est un des pionniers de l'électro français dans les années 60. Bref, c'est un album qui est absolument démoniaque. Franchement, quand on écoute ça...
On termine avec un titre, peut-être ?
Alors, avec un titre, mais oui. Alors, non seulement avec un titre, mais il se trouve que ce titre va être prochainement clippé. Le titre sort, alors je vais dire aujourd'hui, parce que, est un clip absolument magnifique, mis en scène. Alors, mis en scène, c'est compliqué, c'est des collages par une jeune femme qui s'appelle Pauline Bricou, je crois qu'elle est de Lille, on m'a dit. Et cette vidéo est absolument incroyable. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai vue dans le monde du clip depuis assez longtemps. C'est entre Jules Verne et Jeff Koons. Voilà.
D'accord.
Donc c'est du collage, ça bouge beaucoup, ça parle de voyage, ça parle d'époques différentes. Et le morceau, si je me trompe pas, s'appelle Lament. Lament. Et donc c'est une reprise de quelqu'un qui m'était totalement inconnu et qui doit être inconnu pour vous, s'appelle Mamie Perry, une dame des années 60 qui
faisait
sorti un seul disque, je crois, et qui a ensuite disparu. Donc on mettra le clip, parce que franchement, c'est un magnifique clip, et c'est un très très grand disque.
On termine là-dessus.
Avec Merci. Automatic City.
Merci beaucoup Guillaume, et bonne semaine à tous et toutes.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.